Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse pour ce temps particulier que nous vivons ce matin, qu'il soit présent auprès de vous, dans vos cœurs, dans votre esprit, qu'il travaille, que sa parole soit efficace, que ce que nous avons déjà commencé à vivre avec les chants, eh bien, porte du fruit. Nous allons prendre la parole avec un passage qui est approprié pour ce culte qui est quand même particulier, puisque nous allons installer trois diacres et diaconesses pour qu'ils assument une charge plus particulière dans l'assemblée. Alors, eh bien, quel meilleur texte qui les concerne, mais qui nous concerne tous, parce que l'Évangile nous concerne toujours tous les enfants de Dieu, que celui de Luc, chapitre 17, versets 7 à 10, qui est en fait un texte simple, avec un mot qui pose problème, en fait. Donc, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait celui qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Tout en lisant, j'essaie de trouver un exemple, une traduction en quelque sorte dans le fonctionnement actuel de la société, puisque nous ne sommes plus autant des esclaves. Mais si un patron a un ouvrier qui est représentant, qui donc est à la fois à l'extérieur et puis qui travaille également dans les bureaux, eh bien une fois que le représentant a été prospecté et qu'il rentre au bureau, le patron ne lui demande pas de prendre congé tout de suite, mais de faire son rapport, de s'installer à l'ordinateur peut-être, et de continuer ce travail donc à l'intérieur des locaux qu'il a commencé à l'extérieur. Mais c'est un petit peu la même chose dans ce contexte. C'est un maître qui a un serviteur ou des serviteurs, et ces serviteurs, ils sont censés être à son service en tout ce qui concerne la vie de la maison, aussi bien le travail au champ que le travail à l'intérieur, aux tables. Il est donc tout à fait logique que lorsque le serviteur rentre des champs, eh bien, il se met également à servir aux tables. Ça fait partie en quelque sorte du contrat. Et il n'y a pas de reconnaissance particulière de la part du maître à avoir parce que le serviteur a accompli une deuxième tâche dans la journée. Et là, la conclusion de Jésus, c'est vous-même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors on comprend complètement le raisonnement que Jésus a envers nous en tant que disciples, mais le mot qui pose un peu problème, c'est serviteur inutile. Alors inutile, et pourtant le Seigneur leur demande de faire quelque chose. Le Seigneur nous demande d'être à l'œuvre, et il faudrait que nous nous considérions pour autant comme inutiles. Donc il y a quand même une difficulté avec ce mot, ce terme. Et Les pasteurs, les exégètes, ceux qui commentent la parole de Dieu ont essayé de cerner de plus près la signification de ce terme. Le point de départ, en tout cas, de tout engagement ou service chrétien, c'est la grâce que Dieu nous a faite de nous donner aux yeux de Dieu, à chacun d'entre nous, une utilité. Nous étions, en fait, en dehors de l'œuvre de grâce de notre Seigneur, nous étions perdus et totalement inutiles pour la cause du Seigneur, pour son royaume, pour sa gloire, pour ses œuvres à lui. Nous étions totalement en dehors du coup. Et le Seigneur est venu vers nous et il nous a fait la grâce à chacun d'entre nous de faire de nous de ses enfants, de nous accueillir dans sa maison et de regarder à nous comme pouvant lui être utile. Chacun d'entre nous peut être utile à son Dieu. Le Seigneur nous a restaurés, rétablis dans la vie de l'esprit, dans la vie du royaume. Il nous accueille en sa maison et il nous donne notre nourriture. Il assure notre nourriture. Il pourvoit à nos besoins. Il nous donne la vie en abondance. Ici, il est question que ce serviteur, après avoir travaillé au champ et à table, eh bien, va pouvoir lui aussi manger et boire. Il est dans la maison de son maître et il jouit de ce qu'il lui faut pour vivre. Il n'est pas en dehors à errer dans les chemins, à ne savoir qu'est-ce qu'il va manger. Il est dans une maison où il a ce dont il a besoin. Et en contrepartie, il sert son maître. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 35 à 36, conclut toute une démonstration en disant « Qui lui a donné le premier pour recevoir en retour ?» C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Et donc, si nous pouvons donner quelque chose à Dieu, c'est que nous l'avons reçu de lui. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est parce que nous avons donné quelque chose à Dieu que nous avons à recevoir de la part de Dieu. C'est l'inverse. C'est Dieu qui a fait les choses envers nous, qui nous a fait grâce, d'abord qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous a fait grâce de nos offenses. Et donc nous lui rendons gloire, nous le bénissons et nous nous mettons à son service parce que lui nous a accueillis. Alors, il est un autre passage dans l'Évangile, dans Matthieu, où là, il est aussi question d'un inutile. C'est le même mot, mais le contexte est totalement différent. Matthieu 25, verset 30, au sujet de ceux qui ont reçu des talents, et de celui qui a reçu un seul talent et qui ne l'a pas fait valoir parce qu'il avait une idée que son maître était un homme dur et terrible. Alors celui-là, il est dit au verset 28, « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Alors c'est le même mot, mais on comprend bien que c'est pas du tout la même appréciation qui est faite sur ce serviteur. Ici, c'est celui qui a été incapable de servir utilement pour honorer son maître. Parce qu'en fait, il avait donc une pensée très négative par rapport à son maître. Et il n'a rien fait pour l'honorer, pour augmenter le bien de son maître. Tandis que celui de Luc chapitre 17, c'est le serviteur qui, au contraire, est honoré de pouvoir faire ce qui lui est demandé. Si je n'avais pas ce service, eh bien je ne serais rien, répond-il dans un sens en conclusion. C'est mon honneur que de servir mon maître. Nous n'avons rien en fait pour nous que les œuvres qui nous sont commandées par notre Seigneur. L'apôtre Paul aux Éphésiens nous rappelle bien que nous sommes sauvés par la grâce, chapitre 2, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et donc je reprends le texte exact. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Toutes ces œuvres que Dieu nous demande, c'est lui qui les a préparées, et donc il nous engage dans ce qu'il a préparé d'avance. Ces œuvres viennent de lui. Et une fois faites, eh bien, nous n'avons rien de plus que toujours sa grâce. Nous vivons de sa grâce et nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos œuvres en pensant que nous sommes devenus meilleurs par nos œuvres. Nous sommes toujours au service du Maître qui nous fait grâce. Et si nous ne le faisions pas, alors, eh bien, nous commettrions un péché. Jacques l'affirme ainsi donc, chapitre 4, verset 17, celui qui peut faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous sommes accueillis par notre Seigneur, nous faisons ce qu'il nous demande de faire et nous le bénissons de ce qu'il nous permette de le faire. Parce que s'il ne le permettait pas, s'il ne nous le donnait pas, s'il ne nous avait pas accueillis, je répète, nous ne serions rien. À ce moment-là, nous serions inutiles totalement. Prenons l'état d'esprit de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, il fait la description de ce qu'il vit dans la foi. Et alors, voilà, il y a beaucoup d'autres aspects dans la vie de l'apôtre Paul, mais il y a un aspect particulier où il est en difficulté, c'est qu'il avait une faiblesse donc dans la chair, ce qu'il appelle une écharde, et voilà, il reconnaît que Dieu lui a mis cette écharde Il a permis à Satan de le souffleter pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien, cet état d'esprit de l'apôtre rejoint l'attitude de celui qui se dit un serviteur inutile. Cet apôtre qui sert dans des conditions extrêmes, non pour se glorifier, mais pour témoigner que Christ est à l'œuvre dans toutes les situations, que Christ pourvoit à tout et que Christ donne le succès à la prédication de l'Évangile indépendamment des bonnes conditions dans lesquelles il peut être apporté. Donc, cet apôtre, eh bien, se plaît simplement, et il le dit d'ailleurs, c'est ma joie, mon privilège que d'annoncer gratuitement la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que j'ai été appelé à cela, à annoncer l'Évangile, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Je l'ai reçu de Dieu, je le mets en œuvre. Alors bien sûr, cette approche de cette parabole, elle doit être complétée, car Jésus n'est vraiment pas un maître qui est simplement à vouloir nous demander un service en étant lui, voilà, le supérieur, bien entendu qu'il est le supérieur, mais il a montré aussi un autre témoignage, le témoignage de l'amour. On peut dire que dans la parabole qu'il nous donne au chapitre 17 de Luc, il reste dans le domaine, on peut dire, il parle à ceux qui, voilà, qui aiment la loi et qui se prévalent de la loi, les pharisiens, hypocrites, etc. Donc il est dans le domaine, on peut dire, légal. C'est tout à fait juste que quelqu'un serve son maître sans attendre une récompense particulière. Mais le Seigneur Jésus n'a pas fait que demander aux hommes de le servir, bien sûr, nous le savons tous. Le Seigneur Jésus est venu lui-même pour servir. Hein, car le Fils de l'homme, toujours dans Luc d'ailleurs, qui montre bien que l'apôtre ne se contredit pas, hein. Luc 22, 17. Non, c'est pas 22, mais c'est pas grave. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, dit le Seigneur. C'est au verset 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dit le Seigneur. Et nous le voyons, bien entendu, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, en train de laver les pieds de ses disciples afin de leur donner un exemple. Et puis dans ce même évangile de Luc au chapitre 12, il y a le verset 35 à 38, une autre parabole. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ici, le Seigneur nous avertit d'attendre son retour, son avènement, mais il le fait en nous disant que lorsqu'il va revenir, ceux qu'il trouvera prêts, les serviteurs que lui va trouver prêts, il va lui les faire mettre à table, il va lui se ceindre et il va lui les servir. Voilà le caractère de Jésus. Voilà ce qu'il a été dès le départ pour nous. Il est venu servir, donner sa vie en rançon pour les pécheurs. Et il sera toujours là pour nous permettre de vivre la communion avec Dieu, de vivre les bontés et la fidélité de Dieu. Car de quoi vivons-nous ? En définitive, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, de quoi vivons-nous ? Nous vivons de la grâce de Dieu. C'est déjà le cas maintenant, lorsque nous recevons par la foi l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et si cet amour est venu et à pénétrer nos cœurs, alors eh bien, nous honorons le Seigneur pendant notre vie présente. Nous l'honorons justement en proclamant son avènement, en attendant son avènement. Bien-aimés, bienheureux ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, dit aussi l'apôtre dans un autre passage. Et ceux-là qui auront aimé l'avènement du Seigneur, qui seront entrés dans son amour, eh bien, le Seigneur sera toujours là dans l'éternité pour les servir. Donc, il s'agit de découvrir l'ensemble de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Et il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, tout ce que nous pouvons faire, eh bien, nous le lui attribuons, nous lui rendons grâce de cela. Et nous ne voudrions surtout pas être séparés de lui, être en dehors de sa maison. Il vaut mieux pour nous être à la plus petite place, à la dernière place à sa table, hein, comme il est dit aussi, que à nulle part ailleurs, hein, et en particulier dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, voilà notre relation avec le Seigneur Jésus, notre relation de foi, notre relation d'engagement personnel, chacun d'entre nous en tant que disciple de Jésus. Et puis, lorsque nous recevons une charge particulière, un ministère particulier, un service particulier, eh bien cela ne change rien à cette condition fondamentale, à cette relation que nous avons avec le Seigneur, de qui tout nous vient et qui nous a fait cette grâce de pouvoir le servir. Nous sommes honorés par le Seigneur de pouvoir accomplir une œuvre pour lui. C'est une grâce qu'il nous fait et nous ne la tirons pas de notre propre capacité. Alors sachons que nous sommes tous, vous êtes tous utiles à partir du moment où vous reconnaissez l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, hein, vous entrez dans ce que lui est en train de préparer pour l'éternité, et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez vous réjouir de chaque chose, de chaque œuvre qu'il vous permet d'accomplir en son nom. Amen.